Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Sophie Sidos-Vicat.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, vous êtes présidente des conseillers du commerce extérieur de la France, propriétaire du groupe cimentier Vicat et membre du MEDEF Isère.
Oui, tout à fait. Ça.
Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Je vous ferai réagir au propos de Villeroy de Gallo. Rien d'extraordinaire hein, à côté de ça. Laurent Vronsky. Bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor et secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Souvent on dit une bonne guerre, une bonne dégradation. Ah, une bonne dégradation de notes, là. Histoire de mettre un bon coup de surin dans les reins du système économique et macroéconomique français.
C'est quand même triste d'en arriver là. Et c'en est triste d'avoir à souhaiter ce genre de choses. Mais si on en juge à l'aune du courage politique auquel, je dirais, nous avons pu faire face depuis 40 ans, parce que c'est toujours la même histoire, hein, je veux dire, globalement, vous avez des gens qui font des tas de promesses électorales, et puis quand ils sont aux affaires, il y a des bonnes raisons pour ne pas les suivre, et encore plus pour aggraver le déficit de la France. Et je pense que ce qui manque, c'est malheureusement une bonne dose de courage. Et ce que l'on voit, c'est que quand on est capable de dire, de pointer du doigt, de dire, écoutez, moi je voulais faire autrement, c'est pas moi, c'est l'autre, on m'oblige de le faire, avec, en clair, le bouc émissaire rêvé qu'est l'Europe. À chaque fois, c'est toujours la faute de l'Europe. Donc là, ça sera la faute des organismes de notation. Bah oui, on peut espérer que malheureusement, si on a une dégradation de notre note, on ait des gens qui disent, bah, écoutez, moi, je voulais pas forcément le faire, mais là, la politique d'austérité m'est imposée par les autres. C'est assez pathétique. Mais malheureusement, je pense que ça a de fortes chances d'aboutir. Maintenant, faut pas se leurrer non plus. Il y a des gens qui s'amusent à se faire peur. Je pense pas un instant que mardi à minuit une, si la note de la France est dégradée, ça va changer quoi que ce soit. Ça ne changera rien.
La plupart des observateurs considèrent qu'effectivement, ça ne changera rien. On avait joué à se faire peur en 2012 avec le fameux AAA. Il s'est absolument rien passé. On a eu quand même deux très mauvaises nouvelles récemment sur la correction du déficit 2023, plus 0,6 points au-dessus de la prévision, et la révision de croissance d'1,4 à 1%, qui reste malgré tout assez ambitieuse pour 2024. Zéro effet sur l'écart de tour entre la France et l'Allemagne. Donc bon, c'est un peu humiliant de se faire dégrader. Mais maintenant, on doit être quoi, à 18 sur 20. Si on tombe à 17 sur 20, on continuera à survivre. Mais c'est vrai que je vois souvent une bonne dégradation, ça nous ferait du bien. Mathieu Plane, comment vous regardez la semaine là? Alors, François Villeroy de Gallo dit, arrêtez de penser que la croissance va nous sauver. On est d'accord?
Oui, j'allais dire, on le savait un peu depuis le début.
Bah, hein. Oui, oui.
Malheureusement.
C'est quand même souvent ce que Bruno Le Maire a mis en avant, la croissance
Non, c'était une façon de rassurer aussi, à mon avis, les investisseurs, les épargnants, les consommateurs. Avec l'idée de dire, en fait, on passera pas à la caisse. Et que globalement, ce choc-là hein, qu'on a subi, on l'a amorti avec les finances publiques. Et la question, c'était, la reprise, la croissance suffira à régler le problème des déficits et de la dette. Or, c'était presque évident que ce serait pas possible. Surtout avec les mauvaises surprises qu'on a sur la croissance. Et j'allais dire, c'était un peu le plan A qui était un peu naïf, entre guillemets, hein, de dire, on reviendra tranquillement en dessous des 3% de déficit public avec plus de croissance, qui finalement est le bon scénario, celui qu'on aurait aimé tous avoir. J'allais dire, là, on se retrouve face à un plan B qui est beaucoup plus réaliste, qui est celui comment, finalement, on finance le choc et la crise et le quoi qu'il en coûte, en gros, hein, c'est la sortie de crise, avec un scénario de lequel la croissance, elle patine. Et ça, on s'y attendait quand même plus ou moins avec les différents chocs qu'il y a eu. Et ça, ce scénario B, il n'est pas très travaillé, en fait, qui aurait dû être le scénario 1.
Ce que vous appelez un scénario B, Mathieu, c'est quand on annonce 10 milliards par surprise d'économie par décret, ce qui ne s'était jamais vu, et qu'à peine 3 semaines ou un mois avant, on remet le couvert avec 10 nouveaux milliards, habilement organisés de manière à éviter d'avoir à passer devant le Parlement avec un texte rectificatif. C'est ça le plan B.
Et le problème, c'est que ce plan B, il n'est pas très bien travaillé. C'est un peu ce que j'allais dire.
Qu'est-ce que vous le dites gentiment?
Non, mais voilà.
Qu'est-ce que vous le dites gentiment?
Donc, en fait, on veut fâcher personne. On veut fâcher personne dans cette affaire-là. Donc, on dit, on va pas augmenter les impôts. OK? Donc, on touche pas ces fiscalités. On va essayer de préserver la croissance et on va faire des réductions de dépenses publiques, mais on sait pas vraiment lesquelles et ça touche personne. J'allais dire, c'est un peu la quadrature du cercle, cette affaire-là. Donc là, on est en train un peu de faire de la politique plus que de l'économie sur cette affaire-là. La question, c'est que ça peut tenir sur une année ou quelques mois, mais si on a vraiment l'objectif de rétablir les finances publiques et revenir en dessous des 3%, ça ne sera pas des économies de bout de chandelle. Hein.
Vous avez vu le rapport du Conseil des finances publiques, oui, qui chiffre à minimum 65 milliards d'euros l'effort budgétaire à réaliser d'ici à 2027.
Et ça, c'est vous prenez 5,5 de déficit public, il faut revenir en dessous de 3, c'est 2,9. Vous avez 2,5 points de PIB. 2,5 points de PIB, ça fait à peu près 70 milliards, quoi. Enfin, je veux dire. Et ça, c'est sans prendre les effets rétroactifs sur la croissance, hein. C'est-à-dire en supposant qu'il n'y a pas d'effet sur la croissance, ce qui est un peu d'ailleurs naïf dans les analyses, c'est-à-dire en disant...
Alors on sait qu'on a un effet récessif.
La question du multiplicateur, il se pose tout le temps.
François Villeroy de Galo le répète aujourd'hui, oui, il y a un effet. Et donc, si on coupe un milliard, il n'y a pas d'effet. Si on en coupe 10 et puis 10, oui, il y a un effet.
Bah oui, si c'est vraiment des bouts de chandelle, ça ne fait pas grand-chose. Mais si au bout d'un moment, vous vous désindexez les retraites, vous remboursez moins la santé, si vous faites des économies structurelles assez fortes sur un certain nombre de dépenses, de rémunération et autres, forcément, ça a des effets. Sinon, les économies magiques, ça n'existe malheureusement assez peu. Ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu en déconnexion macroéconomique dans cette affaire-là. Où y a
ça
pas...
veut dire quoi, déconnexion macroéconomique?
Il n'y a pas le raisonnement, c'est-à-dire au bout d'un moment, de dire comment on revient en dessous des 3% en disant, si notre objectif principal c'est ça, combien il faut mettre vraiment sur la table et quels effets il faut attendre, mais en disant c'est la priorité, ou alors on dit on laisse de côté les 3% et c'est une illusion. Voilà, c'est tout. C'est ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un schéma qui est très clair.
Mais vous avez raison de poser la question ainsi. J'ai posé la question à Gabriel Attal. Il a confirmé qu'il voulait être sous les 3% en 2027. Ouais. Moi, je me pose la question. Est-ce que dans un moment où la croissance patine et molle et s'annonce mal, est-ce qu'il faut continuer à garder, à s'accrocher à l'objectif de déficit?
C'est exactement ça.
Pour Sophie Sidos-Vicat, votre lecture de la situation... préoccupé, pas préoccupé par la situation des comptes macroéconomiques du pays?
Alors, parallèlement, oui, pour les entreprises, c'est toujours le même problème. On a toujours à se transformer, cette transition énergétique et écologique qu'on n'arrive pas à faire. Ça nous coûte des millions, des milliards. La CSRD, par exemple, on en parle
assez
souvent.
Alors, la CSRD, c'est tout le reporting extra-financier qui s'installe petit à petit.
Qui s'installe petit à petit et qui, pour les entreprises, nous coûte très, très cher. Je vois, par exemple, pour mon groupe, c'est à peu près 20 personnes supplémentaires. En gros...
Comme ça.
Pour pouvoir
20
faire
personnes,
20 personnes sur ce
20 personnes pour,
1200, pour réaliser cette CSRD, c'est à peu près entre 1 million et 1 million et demi d'euros supplémentaires. Qui peut aujourd'hui se payer ce surplus pour finalement de l'extra-financier? Donc c'est ça aussi qui va être compliqué. C'est comment est-ce que toutes ces entreprises vont pouvoir s'adapter, se transformer, et ces réglementations européennes, très bien, si on a une Europe forte et tous ensemble, mais vis-à-vis de l'Asie, je rentre de Hong Kong là hier, je peux vous dire qu'ils rigolent en Chine. Ils sont très contents, toutes ces réglementations.
Ah, continuez à faire de la réglementation et encore de la réglementation.
Voilà, ouais. Et nous, on va pouvoir enfin écraser tous vos marchés.
Allez, vous allez voir, on va simplifier, il y a une loi qui va simplifier, ça va... Mais sinon, est-ce que globalement, la situation des comptes publics de la France, parce qu'on a pris l'habitude, 50 budgets dans le rouge, un 51e l'an prochain, évidemment, est-ce que ça vous préoccupe?
Oui, moi ça me préoccupe.
Est-ce que par exemple, ça vous préoccupe en vous disant, mais les perspectives quand même de stabilité globale du pays, et là c'est la semaine des agences de notation, attention, que va-t-il se passer?
Oui, parce que...
Ça va passer, ça passe tout le temps. Il y a peut-être un jour où ça passe moins bien.
Oui, et puis là, l'État doit montrer l'exemple. C'est à eux de faire des économies, parce que s'ils ne le font pas, ben nous, les entreprises, il n'y a pas de raison que ce soit toujours l'entreprise qui paye à un moment donné. Alors, il y a l'épargne publique, on a tous de l'épargne. Là, on peut peut-être en faire quelque chose, mais pour en faire quelque chose, il faut donner l'exemple. Donc, je pense qu'en effet, si on a une réduction de la dette publique, là, peut-être qu'on pourra toucher à l'épargne publique et avoir un vrai projet de transition écologique.
Alors, Gabriel Attal disait jeudi, justement, regardez, on prend le taureau par les cornes, 10 milliards plus 10 milliards. Je lui répondais que c'était quand même le signe d'un gouvernement mort de faim qui courait après les milliards sans avoir aucune préparation. Et c'est ça qui est un peu problématique, parce que faire des économies, oui, mais la manière dont on s'y prend là, dans une forme d'urgence absolument pathétique en l'espace de à peine 3 mois après le début de l'année, pas forcément très rassurant.
Non,
oui, Mathieu, vous voulez réagir, et puis Laurent.
Oui, non, en plus, c'est 10 milliards plus les 10 milliards, hein, c'est avant les 20 milliards supplémentaires
de 2025.
De 2025, qui n'ont pas été annoncés. Et les 10 milliards supplémentaires, j'ai pas bien compris ce qu'il y avait dedans, hein, honnêtement, aujourd'hui. Ce qui est un peu magique, là, cette affaire, parce que trouver 20 milliards sans effet sur l'économie, la croissance, et pas savoir qui va, en fait, payer ces 20 milliards, juste 20 milliards, l'équivalent, c'est la suppression totale de la taxe d'habitation, qui était quand même la grande mesure du quinquennat précédent. Donc on n'est pas sur du bout de chandelle. Donc j'aimerais bien savoir, effectivement, est-ce que ces 20 milliards sont réellement 20 milliards? Parce que c'est vraiment un montant qui est conséquent et qu'on ne trouve pas comme ça, juste en faisant des gels de crédit de certains ministères, etc.
Je suis un peu comme vous, là. Je trouve que
moi, j'ai du mal à comprendre.
Les gels de crédit de réserve qui font...
C'est énorme.
Ils nous annoncent 5 milliards de gels de crédit de réserve. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment 5... Les crédits de réserve, c'est de l'argent qu'on a sous le coude. C'est une poire pour la soif s'il y a un coup dur.
Ouais.
On a 5 milliards comme ça à la claque de crédit de réserve, alors que déjà les 10 premiers milliards
avaient déjà été. Voilà.
Donc c'est...
Moi, c'est pour ça, je suis un peu sceptique et de voir vraiment dans la réalité comment ça va se traduire. Et ça, c'est quand même un point important. J'ai l'impression qu'on. Enfin, une fois de plus, on essaye de trouver des économies sans fâcher personne. Or, forcément, il y aura des choix politiques à faire qui sont durs si on veut avoir une stratégie forte de redressement des finances publiques. C'est des montants qui sont extrêmement importants. Quoi. Enfin, il ne faut pas croire que c'est des...
C'est juste bon montant. Voilà, on nous annonce qu'on va tordre le bras des collectivités locales à hauteur de 2 milliards et demi.
Mais alors, je rappelle juste, par exemple, sous Hollande, la réduction des dotations aux collectivités locales, hein, quand il y a eu la volonté de réduire les déficits publics, c'est une baisse de 10 milliards. Mais 10 milliards par an, hein, c'est pas une fois, hein, c'est du pérenne. Hein. Et ça a eu quand même des effets, des conséquences. Enfin, les collectivités locales étaient bien sûr pas contentes, mais il y a eu des effets sur l'investissement public local aussi. Enfin, tout ça, il faut le prendre en compte. Je trouve que, voilà, il faut avoir un discours de vérité si on considère qu'il faut réduire ses déficits. Forcément, il va falloir trouver une stratégie globale d'ensemble qui soit la plus efficace possible, mais pas penser que ce soit facile, en fait.
Ou alors, on dit contexte de croissance molle et durablement ralenti égale exit l'objectif des 3%
pour exit 2027. Alors parce que certains,
François Eckhall défend cette idée et François Eckhall n'est pas un ultra keynésien.
Moi je vous dis, enfin juste après je vous laisse la parole, mais la stratégie, si vraiment on est là-dessus, c'est de dire en fait il faut un plan sur plusieurs années, y compris avec l'histoire des niches fiscales, enfin moi je pense qu'il faut pas écarter certaines pistes sur la fiscalité. On parlait des fiscalités des rentes ou certaines niches fiscales qui devaient être réduites, notamment on parlait des niches fiscales brunes. Oui. Qui est un point important, il y a la question de la dépense publique. Bon, bah vous faites un montant, si on parle de 70 milliards sur plusieurs années, et vous essayez de suivre cette stratégie, mais vous ne courez pas vers un objectif nominal de déficit, parce que forcément, s'il y a moins de croissance, vous allez encore faire plus de réduction ou d'austérité, et vous risquez de tomber dans un cercle vicieux qui n'a pas beaucoup de sens. Donc, ayant un plan crédible, y compris vis-à-vis des investisseurs, mettons-le en place, mais il ne faut pas courir derrière un objectif numérique, j'allais dire, déficit. S'il y a plus de croissance, tant mieux. Si on a pas, si on a moins, il faut pas aller un cran plus loin, sinon c'est vous allez tuer le malade, quoi.
Normalement, il serait cohérent de considérer que le contexte étant mauvais, c'est pas le moment de s'accrocher à un objectif de déficit. Sauf que on n'a jamais su, nous, agir dans un sens ou dans un autre en fonction de la conjoncture. Enfin, la fameuse histoire de on répare le toit quand il fait beau. On n'a jamais su le faire, donc il y a un moment où on se dit... Laurent, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, vous voulez réagir, allez-y.
Oui, alors, Laurent Wonski. On est lundi matin, donc...
on est lundi matin,
Je voudrais pas démoraliser nos auditeurs, mais je voudrais bien qu'ils comprennent quelque chose. C'est que, ce qu'on peut se dire, c'est comme étonnant, la France a des mauvais chiffres, 3100 milliards de dettes, on est en déficit perpétuel et on continue à nous prêter de l'argent.
Oui.
La question, c'est pourquoi ? Ben, j'ai une mauvaise nouvelle. La question, c'est parce que le collatéral et la caution, c'est nous tous. Et donc, quand vous regardez le taux d'épargne en France, qui est quand même assez record, en clair, certains se disent, à tort ou à raison, comme en plus la France est passée champion du monde en matière de levée d'impôts, si demain, il y a un petit problème... au niveau du pays pour rembourser la dette, eh bien, nous faisons confiance au gouvernement français pour aller prendre l'argent là où il est et ponctionner les épargnants. Et quand je dis les épargnants, c'est majuscule. C'est tout le monde qui passe à la caisse. Donc ça, il faut en être conscient, c'est nous les cautions.
Absolument. Non, mais c'est la vérité. C'est en cas de coup dur.
C'est pas parce qu'on a.
Il n'est pas à exclure en cas de coup dur que ce soit un choix politique.
Non, on n'a pas de potion magique, on n'est pas plus intelligent que les autres. Bon, la deuxième chose, je veux dire, quand on parle de s'attaquer aux niches. Pourquoi pas ? Mais je rappelle quand même que si la France était un paradis fiscal en Europe, ça se saurait depuis longtemps. Et il y a un mot qui est tabou, qui fait partie de ces totems. Il y a eu toute une série de totems qui sont égrenés. Il n'y a pas de faux malades, il n'y a pas de faux chômeurs. Et puis la dépense publique, elle est forcément très efficace. Et si on réduit la dépense publique, on va créer de la récession d'une part et réduire l'efficacité des services publics. Je pense que c'est en grande partie un mythe politique. Parce que aujourd'hui, si nous avions les meilleurs services publics au monde, ça se saurait. Tous nos compatriotes peuvent le juger par eux-mêmes. Il suffit de voir la sécurité, l'éducation, l'hôpital, la justice. Est-ce que ça marche parfaitement ? Première des choses. Deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, on voit bien, vous avez énormément de gens qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas. Donc, on va faire un petit peu de bricolage fiscal. On va distribuer, je dirais, des sucrés de politique en disant, vous voyez, ben alors on va taper un petit peu sur ceux qui ont des sous, un petit peu ici, un petit peu à gauche. Comme ça, on calme un petit peu les mouvements, un peu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Mais la réforme de fond, qui veut dire on part d'une page blanche et on regarde vraiment ce qui est nécessaire pour le pays, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est pas faire des mesurettes. Et je pense que ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit que inexorablement, on est en déficit perpétuel. Alors on nous explique, mais non, mais c'est pas grave, parce que le but d'un pays, c'est pas de faire des profits. Oui, mais enfin, si vous voulez, si on vit à crédit, au bout d'un moment, il peut se passer ce que vous avez d'ailleurs très bien dit. On peut avoir le prêteur qui dit, bah, écoutez, maintenant, soit je ne vous prête plus, soit maintenant, c'est deux fois plus cher.
Et là, on fait là, quoi c'est là, on fait c'est quoi le juge de, ah ben là, c'est le juge de paix, là, ça se passe.
Eh ben
si,
voilà.
Si ça arrive, ça se passe très mal.
Eh ben ça se passe très mal parce que ça sera dans l'urgence.
Donc voilà. Et c'est la Banque Centrale Européenne qui serait à ce moment-là la seule à pouvoir calmer le jeu, si tant est qu'elle soit prête à être
ouvée d'un coup. Donc en conclusion, je veux dire, simplement ce que je veux dire à nos auditeurs, ne croyez pas que les 3% c'est une coquetterie européenne. Ça correspond à une réalité économique. Et si le pays continue à vivre à crédit et au-dessus de ses moyens, un jour ou l'autre, c'est nous tous qui allons servir de caution.
Alors allez-y, Sophie Bosnicaté, Mathieu Plane.
Quand on voit aux États-Unis avec le programme de l'IRA le développement qu'a pris l'Amérique et nous notre plan France 2030, il faut peut-être accélérer un peu. On ne va pas attendre 2030 pour avoir les investissements. Moi, je crois encore en l'économie, je crois encore dans nos entreprises et si on les aide beaucoup plus rapidement, je pense qu'on aura le retour sur cet investissement aussi beaucoup plus rapidement.
Je crains qu'on n'ait pas les moyens, Sophie.
On n'a peut-être pas les moyens, mais on a annoncé un plan. Oui, maintenant, il faut s'y tenir.
On peut pas se permettre comme l'Amérique de tirer nos déficits à 7,5%.
Ah oui.
Voilà, ça c'est pas possible. On peut pas le faire. Là, pour le coup, ça passerait plus. Il y a un moment, ça passerait plus.
Dans le rapport, la lettre de.
Et sinon, oui, il faudrait bien sûr.
Ça, c'est quelque chose qui est pas mis beaucoup en avant, je trouve. D'ailleurs, dans la divergence de croissance US-Europe, c'est la divergence aussi sur les déficits commerciaux et les déficits publics. Ils sont quand même colossaux.
Monumentaux.
Aux États-Unis, on est à 8% et il n'y a pas du tout de programme qui vise à réduire le déficit public. C'est-à-dire qu'on a une divergence de croissance, mais on a une divergence sur les finances publiques qui devient quand même aussi très forte. Moi, je suis d'accord qu'il faut bien sûr une stratégie de rétablissement des finances publiques, mais il ne faut pas que ça se fasse effectivement au détriment de l'investissement et de la croissance. C'est bien un des problèmes qu'on a eu pendant plusieurs années, et le retard technologique qu'on prend sur un certain nombre de points, sur la productivité. Je ne dis pas que ça passe que par la politique budgétaire, mais si vous n'avez plus de soutien de la politique monétaire avec des taux élevés et une politique budgétaire qui devient extrêmement restrictive, alors ça va se poser une question qui est quand même fondamentale, qui est celle de la divergence des croissances entre Europe et États-Unis. Et ça, c'est vrai qu'on est face aussi à un plan dans lequel on a des besoins d'investissement dans la transition qui ont été chiffrés par le rapport Pisani et Mahfouz. Il y a la loi de programmation militaire, parce qu'on vit dans un monde qui devient de plus en plus insécure au niveau international. Bon, tout ça, j'allais dire, on peut pas le faire comme ça, juste sur un coin de table, en disant, on va faire des réductions de dépenses publiques, etc., de 10, 20 milliards. C'est un nouveau plan énorme, on est confronté à des nouveaux défis énormes, avec des divergences de croissance entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, des divergences de stratégie macroéconomique. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir vraiment prendre conscience qu'on est dans une nouvelle situation et dans un nouveau monde, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, je repensais à ce que vous disiez, Sophie Silos-Vicat, sur France 2030. Rien n'a été annoncé. Il y en a quand même certains qui craignent justement que, y ait une petite poire pour la soif dans France 2030 et qu'éventuellement, dans la quête d'économie ou de crédit, on décide que peut-être France 2030 passerait un peu à la caisse, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie des choses qui ne sont pas totalement à exclure.
Mais par contre, voilà, juste parce qu'on parlait de la dépense publique, plus de 50% des dépenses publiques, c'est de la dépense de protection sociale en France.
Bah oui,
en fait, c'est la singularité française, elle est là-dessus.
Mais d'accord.
À partir du moment où on exclut les retraités.
Et justement, est-ce que vraiment il faut les exclure?
Eh ben voilà, c'est quand même une question. Est-ce que du coup, on peut dire, on peut redresser de 70 à 80 milliards les comptes publics sur la dépense sans faire un effort collectif, y compris du côté des retraités? Voilà, c'est une question. Déjà, en excluant ça, vous n'êtes pas crédible, moi, je trouve. C'est-à-dire que forcément, vu les montants budgétaires en jeu, vous devez mettre tout sur la table et vous ne pouvez pas exclure des postes aussi importants. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, forcément, mais vous ne pouvez pas l'exclure d'emblée, j'allais dire, parce que les montants sont trop importants.
Ça a été exclu, mais l'année n'est pas terminée.
Oui, surtout 2027, on n'y est pas encore.
Oui, je vous donnerai la parole pour réagir à Laurent Wronski dans un instant. On marque une pause. On va s'intéresser au bilan 2023 de France Travail, qui dément l'idée que les radiations exploseraient et que lorsqu'on annonce des bonnes nouvelles sur le front de l'emploi, c'est en fait parce qu'il y a des radiations alors que le chômage ne baisse absolument pas. Je l'ai quasiment systématiquement lu pendant 3 ans dès qu'on faisait une chronique avec des chiffres sur la baisse du chômage. C'est faux, vous mentez. Les radiations explosent, voilà pourquoi les chiffres s'améliorent, vous mentez. Eh bien non, on est une fois de plus un chiffre de France Travail qui confirme que tout ça est stable et que la très grande majorité des demandeurs d'emploi portent bien leur nom car ils cherchent bien un emploi.